Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Rue des Écoles. Louise Touret.
Ce soir, nous parlons des adolescentes. Le langage, le sexe et l'amour semblent être trois sujets particulièrement compliqués à l'adolescence. Alors que la manière de parler sert en partie à se différencier et à se singulariser de manière générationnelle, le sexe et l'amour occupent l'esprit et les conversations. Ils sont toutefois ensevelis sous des mots et des silences éloquents. On va le voir sur ce point qui a été adolescent, voit très bien de quoi nous parlons. Et puis il y a tout ce langage ordurier des ados, ces insultes sur lesquelles a précisément travaillé une de mes deux invitées, sociologue. Que signifient tous ces gros mots que profèrent les adolescentes, parfois simplement pour rire? Que raconte le fait que ces insultes soient à caractère le plus souvent sexuel? Même entre filles, je vous épargne les mots précis, mais ça va venir. C'est en lisant cette sociologue, Isabelle Claire, que l'on comprend qu'interroger cette grossièreté donnait des clés pour décrypter non seulement cet âge de la vie, mais aussi un certain état des rapports de genre. À ses côtés, la romancière Faizagen pour nous demander comment parler d'amour, de sexe, de consentement quand on a 13, 15 ou 17 ans. Enfin, en ce moment de réémergence du féminisme au premier plan des débats publics et de questionnements autour du harcèlement et du consentement, est-ce que tout ça peut nous faire avancer, nous adultes, sur la manière d'en parler aux adolescents, car il y a bien là un enjeu éducatif. Encore un numéro de Rue des Écoles qui commence à 17h15, ce sera encore le cas de semaine, mais comme chaque dimanche bien sûr, à 17h52, la leçon de choses de Sophie Bobert avec aujourd'hui une décoratrice, designeuse, je ne sais pas très bien comment on féminise ce mot, en tout cas c'est Bambi Sloan qui raconte sa jeunesse et sa scolarité au lycée français de New York.
Jeune fille de 15 ans, 1975.
Très bien.
C'est-à-dire?
Ben, je le trouve très bien parce que, enfin, pour moi, je parle un peu pour mes filles. Ben, elles continuent leurs études. Moi, je les trouve très équilibrées. Elles sont très bien.
Vous avez des filles de cet âge-là?
Oui, bien sûr. J'ai Béatrice et Catherine.
Qui ont 15 ans?
15 ans.
La jeune fille de 15 ans, en 1975, je pense qu'elle est volage, frivole. Elle pense qu'elle a bagatelle. Enfin, pour moi, c'est ça.
Comment voyez-vous la jeune fille de 15 ans, en 1975?
Bien évidemment, pour un homme de mon âge, si je la compare à ce que les camarades de classe avaient quand j'avais 15 ans également, je crois que la jeune fille est assez nantie par la vie, à l'heure actuelle.
La jeune fille de 15 ans ne pense qu'aux garçons?
Non.
Elle y pense quand même?
Oh non.
La jeune fille...
J'ai dit non.
C'est exact, je crois. Oui. Elle aime sortir, enfin, elle essaye de désobéir à ses parents souvent et... Elle essaye de sortir contre leur gré pour aller les retrouver, justement, enfin, je pense.
Qu'aux garçons, certaines, certainement. Disons qu'elles essaient de sortir de leur ghetto familial. Elles essaient un peu de s'extérioriser.
Voilà, c'est une archive que Lina a fait circuler cette semaine sur les réseaux sociaux. Elle est extraite du journal des téléspectateurs Être jeune fille en 1975 et ça a été diffusé pour la première fois le 4 avril de cette même année. Une archive, c'est toujours l'occasion d'interroger les différences et les permanences. Et la première question que je vais vous poser, Isabelle Claire, donc je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, autrice en particulier d'un article « S'insulter entre filles » dans la revue « Terrains et travaux ».
Bonsoir.
Bonsoir.
Mais ce qui est intéressant, déjà dans les, ne serait-ce que les termes qui sont utilisés, qui pour le coup là ne sont pas des insultes, mais qui sont utilisés en fonction des personnes qui prennent la parole pour caractériser les filles de 15 ans en 75, c'est qu'immédiatement apparaît les oppositions qui perdurent en fait aujourd'hui et qu'on retrouve dans d'autres sociétés, encore dans d'autres moments historiques, qui sont l'opposition entre la fille bien et la fille volage, et la mère qualifiant sa fille de bien et une autre femme la qualifiant de qualifiant les jeunes filles de volage, et cette opposition et cette tension se retrouve dans les discours, se retrouve dans les jugements sexuels dont les jeunes filles font l'objet en permanence, en fait, à partir du moment où elles sortent de l'enfance. Ça commence dans l'enfance, mais à partir du moment où les filles sortent de l'enfance, et alors qu'elles peuvent pas encore s'abriter vraiment avec des ressources de l'âge adulte, notamment la maternité, qui désexualise les femmes et leur donne un statut, enfin, qui est le statut féminin le plus respectable et le plus respecté. Les ados, elles, et en plus, y compris le fait d'être mère, ne peut pas être une ressource, parce que même là, c'est stigmatisé, n'ont pas ces ressources-là, et pourtant elles entrent sous le radar du manque de respectabilité, du jugement sur leur sexualité, et immédiatement elles sont classées entre deux catégories. Il n'y en a pas 50 000, et c'est toujours les mêmes, même si les critères évoluent et sont pas les mêmes dans tous les milieux sociaux, mais n'empêche que cette opposition-là,
les catégories se retrouvent partout. Demeurent, et vous avez travaillé sur plusieurs milieux sociaux, ouais. À la fois populaires, mais en banlieue comme en milieu rural, et puis en ce moment sur la bourgeoisie. À vos côtés, Faïza Ghen, que je n'ai pas encore saluée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes romancière, dernier ouvrage en date, Millennium Blues, chez Fayard. Ce travail de romancière et ces personnages féminins que vous décrivez, c'est aussi pour vous une façon, j'imagine, de vous confronter à ces clichés pour soit les contredire, soit aussi peut-être en jouer. Qu'en faites-vous, vous ?
C'est vrai que c'est très délicat, parce que je pars toujours du principe que un personnage de fiction, un personnage féminin, n'incarne que lui-même, et c'est très compliqué pour moi à travers la fiction de faire un état de fait et de dire voilà, ça, mon personnage, c'est une fille d'aujourd'hui. Je suis pas certaine. Je pense vraiment que, et en même temps, la contradiction, c'est que mes lectrices souvent elles me disent ça représente tellement soit une génération, soit des filles d'un milieu social bien particulier, etc. Donc je me rends compte que finalement il y a beaucoup plus de choses qui sont des choses que je partage finalement moi en tant que femme aussi avec mes personnages, et que d'autres femmes partagent, et que c'est plus fort que la fiction finalement. J'ai toujours l'impression de décrire des choses. En tout cas, d'avoir des portraits de femmes qui sont uniques et qui sont singulières, parce que voilà. Et inconsciemment, je pense que j'y mets aussi des choses et certaines revendications. Peut-être que je vais pas l'admettre très facilement, mais il y a certaines choses qui me tiennent à cœur. Voilà.
Qu'on peut lire en particulier à travers le portrait qui se dessine de votre héroïne, qui est à la fois dans ce récit une enfant, une adolescente, une jeune femme, et puis une mère, même une mère célibataire. Donc, ouais. Ça décrit aussi une certaine forme de réalité. Très sexué. On va revenir à notre sujet, on va même rentrer dans le vif du sujet avec vous, Isabelle Claire, parce qu'on veut bien parler du langage des adolescentes en particulier. Et moi, quand j'ai découvert cet article qui s'intitule « S'insulter entre filles », j'étais très surprise à la fois de lire, décrire une situation que je connaissais, c'est-à-dire des filles qui se donnent des noms d'oiseaux terribles, alors pute, chienne, enfin vous pourrez continuer, à caractère hautement sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, moi, ce que j'ai essayé de montrer dans le papier, c'est qu'il y avait une polysémie, en fait. Et je pense que rien que ça, enfin, c'est une chose importante. Donc, je suis pas sûre, moi, d'être capable de. Enfin, je vais pas donner une explication exhaustive de tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, sur le terrain à partir duquel j'ai fait ce papier, d'abord, j'ai eu un premier étonnement, en fait, alors que moi-même, je sais bien que les filles s'insultent, mais en fait, de voir à quel point c'était récurrent dans les observations que je pouvais faire de leur vie quotidienne, dans les entretiens que je menais avec elles, de voir à quel point l'usage du stéréotype sexiste, parce que c'est ça qui a aussi qui est dans l'insulte sexuelle, c'est que il y a du stéréotype. Or le stéréotype, c'est construire l'autre comme une altérité, vraiment quelqu'un de quand on le stéréotype, on le défait de soi, on dit que c'est quelqu'un qui est vraiment différent, qui est vraiment pas possible, qui est vraiment inférieur. Enfin, le stéréotype dit tout ça, et je me suis demandé qu'est-ce que ces filles font quand, en fait, elles, pour parler d'elles-mêmes ou de gens qui leur ressemblent, elles utilisent un stéréotype, donc quelque chose d'un peu infamant. Et j'ai essayé de mettre au jour quatre principaux usages. Bon, il y a d'abord les filles sur lesquelles j'enquêtais étaient des filles en lycée professionnel, à qui on renvoie en permanence qu'elles sont vulgaires, qu'elles se tiennent pas bien, et notamment certaines enseignantes, ou alors des patrons, des patronnes quand elles font
On parle de savoir-être dans le milieu éducatif.
Voilà. Et elles sont beaucoup jugées à l'aune du savoir-être, et le savoir-être est très sexualisé, en fait. Il faut, voilà, il faut se, non seulement il faut parler comme il faut, mais il faut se tenir comme il faut s'habiller comme il faut, etc. Et du coup, une part de leurs insultes et de la façon dont elles mobilisent les insultes, ça peut apparaître comme une forme de résistance, en fait, notamment à ces femmes qu'elles traitent de putes, de coincées, par rapport auxquelles elles se défoulent quand elles sont uniquement entre elles, et elles en fait elles contre la violence qui leur est faite au quotidien, où on leur dit qu'elles ne sont jamais comme il faut, qu'elles ne sont pas respectables, et elles retournent en fait l'insulte contre ces émettrices là. Et le rire dans cet usage là de l'insulte est très important, parce que le rire à l'adolescence de toute façon est quelque chose de très important, à la fois parce que les inhibitions sont pas encore aussi fortes que plus tard, mais aussi parce qu'il faut rire. Enfin, c'est aussi, le rire est normatif à l'adolescence. Il faut avoir l'air d'être tout le temps content, de tout le temps s'amuser, y compris quand on en a pas très très envie, en tout cas quand on est en groupe. Et l'obscénité permet aussi le rire, la complicité. Et une chose qui est difficile parfois à penser pour les filles, et ça vaut en fait pour toute forme de violence au sens très large du terme, c'est que la violence des femmes, la violence des filles est quelque chose d'un peu intolérable. Les filles ne sont pas censées, les femmes ne sont pas censées être violentes. Or, l'insulte, l'obscénité, c'est une forme de violence, c'est trop. Et du coup, on a du mal aussi à supporter et à seulement reconnaître la possibilité pour les filles de jouer avec l'obscénité, de jouer, puisque justement elles en sont victimes, et qu'elles en sont, enfin victimes ou en tout cas les cibles, on a du mal à imaginer qu'elles puissent rigoler avec ça, et seulement rigoler. Après, voilà, elles ne font pas que rigoler, mais là je...
Les mots ont un sens, ouais. Mais ils servent aussi à rire. Est-ce que dans le milieu sur lequel vous enquêtez en ce moment, la bourgeoisie parisienne, vous retrouvez cette fonction de l'insulte sexuée entre filles?
Alors, je la retrouve, mais par contre, une chose qui est importante à prendre en compte quand on parle du langage, c'est que le rapport au langage est très très déterminé par la classe sociale. La classe se lit dans la façon dont les gens parlent, passent d'un registre de langage à l'autre, en fonction des situations, manient la langue plus ou moins. Et c'est une question de sexe aussi, parce que dans les classes populaires, les filles souvent manient beaucoup plus de niveau de langage que les garçons. Alors, pas tous les garçons, pas toutes les filles, mais il y a quand même des clivages qui sont forts. Et dans la bourgeoisie parisienne, il y a une certaine façon de parler, y compris à la sociologue, qui en plus est une adulte, donc qu'on veut un peu provoquer, mais pas trop, et qu'on ne veut pas provoquer de la même façon selon... Mais néanmoins, ce vocabulaire-là ressort fortement, et aussi parce que c'est un vocabulaire de jeu, mais c'est aussi un vocabulaire qui est une stratégie, enfin, on dit comme ça en sociologie, ça veut pas dire que les filles passent leur temps à élaborer des stratégies, mais une façon en tout cas de... En jetant l'opprobre sur une autre fille, parce qu'il ne s'agit pas toujours de rire. Il s'agit parfois, quand on traite une autre fille de salope, on ne veut pas lui faire que du bien, forcément. Quand on la traite comme ça directement ou dans son dos, c'est aussi une façon de se mettre en position de juger l'autre, et du coup de mettre à distance la possibilité soi-même d'être jugé à l'aune de sa propre immoralité. C'est-à-dire qu'en jetant l'opprobre, on met l'opprobre à distance. Et ça, les filles sont très souvent, et je pense que ce n'est pas que les jeunes filles, c'est les femmes aussi adultes le font, quand elles réutilisent les mots qui servent en fait
à les insulter,
à les diminuer, à les disqualifier. Quand elles font ça, c'est aussi elles réutilisent ces armes-là contre d'autres filles pour se rehausser par rapport au groupe des filles et au groupe des femmes, ce qui est quelque chose quand on est une femme qui peut faire un peu mal, pas seulement quand on est la cible de l'insulte, mais de se dire que en fait on réutilise l'arme contre ses propres les personnes qui sont les plus proches, avec qui on partage la possibilité d'être insultée,
mais et fait, la possibilité d'être vulnérable, ouais, à ces insultes. Faizagen, en tant qu'écrivain, sur cette dimension terrible du langage qui est très utilisé, et aussi à l'endroit des filles et des femmes, et peut-être beaucoup plus qu'à l'endroit des garçons, parce que ce sont bien elles qui sont victimes de ces tentatives de jeter l'opprobre, et aussi sur cette fonction du rire, qui est la fonction joyeuse du langage, même quand ça passe par un langage passablement ordurier.
Oui, je pense que ce que je retiens aussi, c'est que c'est, je sais pas si c'est propre à l'adolescence, mais que l'effet de groupe est tellement fort que ça peut être une manière effectivement de mettre à l'écart le regard qui est porté sur soi. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, les ados que j'ai pu côtoyer et dans ce que j'ai un peu écrit, j'ai l'impression que les mots, quand on, celui qui maîtrise le langage, qui a un peu de verve, qui a la gouaille, qui est capable de, en fait, c'est une manière de pas mettre la lumière sur lui-même, sur les complexes, sur ce qui nous fragilise, sur ce qui rend justement la personne, quoi, vulnérable. C'est une manière, voilà, de porter l'attention sur quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est celui qui est en situation de faiblesse, celui qui a pas les mots. Celui qui n'a pas la répartie, qui n'a pas l'humour, ou qui n'a pas assez de sens critique pour se défendre. Et du coup, c'est celui qui est humilié. Et souvent, moi, quand je parle aux ados, parce que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture dans des établissements scolaires, et ce que je dis souvent, c'est que la maîtrise du langage, c'est vraiment ça, la force. Il ne s'agit pas d'humilier l'autre, mais maîtriser le langage, c'est aussi une arme de défense quand on n'a pas forcément d'autres armes pour se défendre. Et peut-être que les filles, elles sont plus souvent dans cette position de faiblesse, et du coup elles, je suis pas experte, mais j'ai l'impression qu'elles font un relais des mots que de mots de garçons, et que parfois c'est plus violent, et plus, je trouve, hein, plus violent que c'est un relais de ce vocabulaire qui est porté par les garçons.
Une manière de signifier un ordre sexué et hiérarchique du monde, Isabelle Claire.
Oui, parce que en effet, alors il y a en effet cette ce côté ventriloque, en fait, de reprendre ces termes-là. Mais il me semble que il y a aussi une possibilité, à la fois il y a toutes ces dimensions-là qui sont très négatives et qui sont à souligner. Il y a aussi une possibilité pour les filles, y compris via l'insulte, y compris quand une fille qui utilise un vocabulaire ordurier peut être stigmatisée justement de ce fait-là, une possibilité aussi de dire la sexualité. Parce que une autre des impossibilités qui caractérise le langage des femmes, et ce qu'il est convenable pour une femme de dire ou de ne pas dire, c'est de ne pas parler de sexualité. Un homme ou un garçon peut parler de sexualité, et même un garçon, notamment à l'adolescence, est sommé de parler de sexualité avec une grande désinvolture, d'être expert très rapidement sur la question, puisque ça fait de lui un vrai mec, un vrai homme, etc. Alors que les filles, elles, sont dans une position qui est toujours beaucoup plus problématique à cet égard-là, puisque le seul fait, comme elles sont quand même construites d'abord comme des objets du regard et du désir des hommes, et comme des objets sexualisés. Enfin, elles sont elles-mêmes le sexe. Le fait de parler le sexe est un problème en soi. Et le langage ordurier, avec le rire, avec justement tout ce que le rire permet de désamorcer, est aussi une façon d'avoir un discours, pas forcément sur la sexualité, mais un discours sexuel, et d'éprouver même un plaisir par le rire, qui est illicite quand il s'agit de sexualité. Donc le langage aussi permet de... là aussi, c'est une autre façon de contourner... ça ne contourne pas tout, parce que ça peut se retourner contre elle, mais c'est aussi... il me semble que c'est un usage possible aussi qu'elles font de l'insulte sexuelle.
Alors, peut-être ai-je vieilli, en tout cas ça fait très longtemps que je ne suis plus une adolescente. Moi, quand j'entends des adolescents échanger et utiliser tout ce vocabulaire du registre de l'insulte, extrêmement grossier, insulte à caractère sexuel, on l'a dit, je suis un peu choquée. Je me demande à quel moment on passe d'une manière de parler avec laquelle on peut jouer à ce qui s'apparente à pratiquement un type de langage et même une manière de parler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à s'enfermer dans certaines manières de parler, et c'est ce que vous disiez un peu, Faizagen, hyper stéréotypé aussi d'un âge de la vie et parfois d'un milieu social.
Je pense que je suis quand même optimiste sur cette question, parce que moi j'ai observé que souvent on a tendance à sous-estimer la capacité d'adaptation, et que les adolescents, en fonction de là où ils sont, s'ils sont à la maison, à l'école ou dans la rue, ils ont un langage qui est en règle générale très très adapté, au contraire, et que ils savent exactement, à quel moment, comment il faut s'adresser à quel interlocuteur, etc. Donc, je suis pas très pessimiste sur cette question. Je crois en revanche que c'est plutôt le manque de mettre, enfin, le manque de sens dans les mots qui pose un problème. C'est-à-dire que je suis persuadée que beaucoup d'entre eux ne comprennent même pas, en fait, les expressions qu'ils emploient, et l'histoire d'un mot, par exemple. Enfin, juste le fait de l'expliquer, je pense que vraiment ça leur fait prendre conscience de à quel point ça peut heurter d'abord, d'où ça vient, et puis je pense que voilà, c'est une manière de réfléchir aussi. C'est pour ça que je dis que même les adultes, en fait, on doit tous réfléchir aux mots qu'on emploie.
Comme quand des journalistes parlent de prise d'otage pour parler d'une grève des transports. Bon, les mots ont un sens, mais Ce qui peut poser problème aussi, c'est certes de ne pas avoir forcément les mots adéquats pour s'exprimer ou de ne tellement pas trouver les mots qu'on se retrouve confronté à un certain silence. Et le silence, quand on parle de sexe et peut-être quand on parle d'amour, il peut être très dangereux. C'est ce qui m'a semblé entendre expliquer à travers deux documentaires. Un documentaire télévisé qui est passé cette semaine sur France 2 sur le consentement. Il était signé Blandine Grosjean et Delphine Dilly. Et cette même Delphine Dilly, qui est productrice à France Culture, avait produit un documentaire pour Les Pieds sur Terre. Je vous en propose un extrait.
Un soir, j'ai parlé à ce garçon. Ça devait être, t'as du feu, oui, tiens, voilà du feu, ça te dit de fumer un joint, je sais même plus, j'ai dû dire non, je dois rentrer chez moi, et il m'a dit, si tu veux, on peut se voir demain, et il m'a donné rendez-vous pour le lendemain matin, vers 7h, l'heure où je prenais mon bus, même un peu avant, 6h40, et c'est vrai que, des petits papillons dans le ventre, parce qu'un garçon vient de parler, tu lui plais possiblement, et il faut dire que c'est un très beau garçon, plus âgé que moi, mat de peau, les yeux clairs, enfin, un garçon dont toutes les filles rêvaient. Et donc, comme un matin comme les autres, je suis sortie avec mon sac en disant au revoir à ma mère, je partais à l'école, quoi. Et du coup, j'y suis allée... un peu quand même avec la boule au ventre. Je savais que je faisais une bêtise, tu vois. Il était là avec ses copains, en train de fumer un joint. Et puis là, il me dit cool, t'es venu. Enfin, viens, on va discuter un petit peu. Enfin, on va marcher un petit peu. Et donc, on part de l'arrêt de bus. On va derrière le restaurant. Il y a un restaurant juste en face. Et derrière, il y a des terrains vagues avec la caravane. Donc c'était dégueulasse, hein, évidemment, c'était une caravane de squat, avec du PQ partout, des vieilles casseroles, enfin... Et on rentre dans la caravane, et puis, je sais pas, les seuls échanges, ça devait être... ça va, tu vas bien, enfin... On n'a pas discuté du tout, en fait. Et il a commencé à se... On était assis sur la banquette de la caravane. Et il a commencé à enlever son pantalon et à me sortir sa bite. Enfin, il bandait, quoi. Et du coup, je pense qu'il m'a quand même embrassée, hein. J'espère. Je me souviens très mal.
Une histoire qui se termine par un rapport sexuel dont l'intéressé dit qu'il ne fut pas un viol, mais qu'il fut violent. Il faut vraiment écouter ce numéro des Pieds sur Terre. Il est disponible en podcast sur le site de France Culture. Je rappelle le nom de la productrice, Delphine Dilly. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est à quel point on se retrouve démuni quand on est dans une situation difficile à l'adolescence. Je parle bien des filles, et c'est ce qui explique cette zone grise dont certains ont parlé, même si ce terme est lui aussi remis en cause. Cette absence de mots à disposition pour tout simplement dire non, pour tout simplement dire ce qu'on veut, alors qu'on en attend à disposition pour rire, Isabelle Claire.
Mais en fait, moi, ce qui me frappe, c'est même pas tellement qu'on manque de mots ou qu'on n'ait pas de mots, c'est plutôt que quand... on dit toujours aux femmes et aux filles, il faut dire non, si tu n'as pas dit non, ça voulait dire que tu voulais, etc. Mais en l'occurrence, là, par exemple, la personne qu'on a entendue a dit non. La question n'est pas seulement d'avoir les mots et de dire les mots, mais c'est qu'il faut qu'ils soient entendus, reconnus comme des mots qui ont une valeur, qui disent quelque chose. Et ça, c'est là aussi qu'est le pouvoir, et c'est là qu'est la symétrie. C'est qu'en fait, les mots, et on le sait pour d'autres questions et sur d'autres sujets qui ne sont pas que des sujets qui ont à voir avec les filles et les garçons et les hommes et les femmes. Mais en fait, il y a des paroles qui ne valent rien, qui ne compte pas. Et si la fille est venue, alors même qu'elle ne voulait pas venir, ça veut dire qu'elle veut. Et le principe, et moi ce que je retrouve dans mes trois enquêtes, c'est que de toute façon, c'est le présupposé de départ. C'est que les filles sont toutes des salopes et que les filles doivent faire la preuve individuellement qu'elles sont des filles bien. Mais en fait, le présupposé, c'est qu'elles sont des salopes et qu'au fond, elles veulent. Et qu'au fond du fond, en fait, qu'elles veuillent ou qu'elles veuillent pas, on s'en fiche un peu. Mais il y a quand même cette justification posteriori ou qu'on peut se raconter, qu'en fait elles veulent, et que quoi qu'elles disent, l'enjeu n'est pas là. Et c'est pour ça que la discussion sur le consentement, et en effet je trouve que zone grise est un mot un peu problématique, parce que c'est aussi une façon de se dire qu'il y a quand même un endroit où c'est pas bien clair. Sauf que là elle dit j'ai dit non, et ensuite le lendemain matin elle y va en disant je me suis bien rendu compte que je faisais une bêtise. Donc c'est elle la coupable. Et je pense que le poids de la culpabilité, il est décidé bien en amont de tout ce qui peut se dire, de tout ce qui peut se jouer.
Et c'est bien ce que disent ces insultes qui racontent la dichotomie du monde. On a dit soit on est une fille respectable, soit on est une pute. J'ajoute que les garçons aussi, on leur part de souffrance à travers des désignations. C'est soit on est viril, soit on est un PD. Enfin, en tout cas, il y a un ordre sexuel du monde qui est tout le temps formulé et qui finit par être peut-être pesant, et c'est peut-être là où je voulais en venir, ouais, sur les comportements des ados et même peut-être des adultes.
Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, il y a aussi des choses qui pèsent sur les garçons, mais ça, je pense que c'est très important, et c'est lié au fait qu'il y ait une hiérarchie entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. C'est que le PD, c'est une figure très problématique et ça peut attirer beaucoup d'ennuis, évidemment, aux garçons. Mais le garçon qui est traité de PD, quelle que soit sa pratique sexuelle, c'est un garçon qui n'est pas à la hauteur de son sexe, parce que le sexe masculin, c'est quand même celui qui domine. Et donc, c'est un garçon qui, individuellement, et ça peut être terrible à un niveau individuel, est désigné comme tombant du côté des filles. C'est la fiole, la tapette, etc. Donc c'est le garçon qui déroge à la respectabilité du groupe des garçons. Alors qu'il me semble que les filles, c'est pas pour dire que c'est pire, mais enfin, il y a quand même cette asymétrie qui se joue à ce niveau-là, qui fait que le stigmate, il est collectif, il est là en amont. Et c'est pas tout à fait la
par
même
principe.
Chose, en fait. Ouais, enfin, c'est ce que je trouve sur mes terrains.
Moi, je voulais revenir sur le sujet du consentement. Parce que là, dans l'extra audio qu'on a entendu, ce qui est incroyable, c'est que à quel moment on donne son consentement. En fait, à quel moment je suis tout à fait d'accord avec Isabelle sur la question d'une parole qui est dite mais qui n'est pas entendue. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Et moi, je pense qu'à partir du moment où elle vient, c'est comme si elle avait déjà dit oui. C'est-à-dire que tout l'espace, tout le temps qui va faire suite au moment où elle décide de venir et d'aller le voir, c'est déjà trop tard, c'est-à-dire elle a déjà dit oui, c'est-à-dire que ça n'est jamais entendu. Et c'est terrible, parce qu'en plus, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée qu'on est choisi. Moi, ça me terrifie d'entendre une femme qui dit « Toutes les filles rêvaient de la voir », c'est ce qu'elle dit, la jeune fille, dans le reportage. Et donc, comme elle est choisie, et qu'on l'a... Vraiment, il y a encore ce truc qui est hyper présent de la fille qui est élue. Et donc cet homme, il l'a choisi, et donc elle n'a pas d'autre choix que de dire oui, parce que c'est comme si elle respectait pas sa fonction de d'être élue et d'avoir été choisie par cet homme.
Reconnaissante même.
C'est ça, ouais. Il y a un côté même d'être ingrate, de dire non. Donc c'est ça. Moi je pense qu'il faut réfléchir à cette chose-là aussi.
C'est ce qui est souvent raconté dans ces histoires de consentement, c'est que les filles ont peur d'être ingrates ou qu'elles sentent que les hommes attendent une réponse pas forcément positive.
C'est comme une faveur, c'est terrible.
Voilà.
C'est une faveur.
Vous qui intervenez dans des établissements, Faizagen, comment on fait pour déconstruire ces représentations auprès des adolescents ?
C'est très compliqué. Heureusement, on ne compte pas seulement sur les écrivains pour le faire, mais c'est vrai que moi, c'est plutôt sur le regard sur soi, l'estime de soi. Je travaille beaucoup avec des adolescents qui ont entre 15 et 17 ans. Et je trouve que c'est un âge qui est assez déterminant. Et je pense que la manière dont on se regarde, ça compte beaucoup pour les interactions. Moi, en fait, ce que je fais souvent, c'est qu'on parle d'amour. Ce qui est délicat, c'est que les gestes du sexe et les gestes de l'amour, ce sont les mêmes gestes. Mais c'est l'interprétation de ces gestes qui est différente et qu'on doit réfléchir, et dont on doit parler, qu'on doit penser. Parce que parfois, il y a des discussions qui tournent pas seulement autour de la sexualité, mais autour de l'image de soi, de ce qu'on... Avec la vidéo, par exemple, ce sont des supports qui sont intéressants parce que se laisser filmer, se laisser regarder, ce qu'on pense, ce qu'on dit de soi, c'est des choses qui sont très importantes. Moi, c'est plutôt autour de ces choses-là que c'est des petites choses qui sont un peu légères, mais je pense que ça peut être déterminant, ça peut compter. Donc, c'est ma manière un peu de travailler avec eux, mais c'est vrai que l'image de soi à cet âge-là, je pense que vraiment, c'est l'endroit où il faut réfléchir.
Et justement, on retombe sur la question du vocabulaire et des insultes, parce que c'est bien à l'image de soi qu'elles s'adressent, qu'elles s'attaquent, ces insultes, Isabelle Claire.
Oui, et une chose qui est importante, dont on n'a pas encore parlé directement, mais c'est qu'une spécificité de l'adolescence, c'est que c'est le moment où, en fait, on fait l'expérience. La sexualité, elle arrive plutôt de diverses façons, mais c'est autour de 17 ans, en France, dans la moyenne statistique est celle-là, et c'est une moyenne normative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc il y a des disparités en fonction des gens et en fonction de pas mal de choses, mais néanmoins, voilà, c'est autour de là que l'entrée dans ce qu'on appelle la sexualité adulte se fait, les rapports sexuels complets, avec tout ce que ces mots ont de problématiques, se mettent en place. Et donc, ce discours sexuel qui peut être pour une grande partie disqualifiant est prononcé au moment où les filles font, pour la majorité d'entre elles, l'expérience de la pratique érotique avec des garçons, quand c'est avec des garçons. Et ça a des effets, parce qu'évidemment, et notamment moi je l'ai retrouvé sur mes terrains, il y a toujours, enfin très souvent, une très grande culpabilité associée à la première fois, parce que c'est jamais au bon moment, c'était jamais quand il fallait. Enfin, le fait de l'avoir fait est à la fois attendu et en même temps problématique. Et du coup, lié à cette culpabilité, dans cette culpabilité, on retrouve aussi cette idée que s'il y a du plaisir, il n'y en a pas toujours, mais il y en a parfois, alors on a la validation qu'on n'est pas si vertueuse, mais ça, c'est bien vrai, alors qu'au fond...
On parle bien du 21e siècle. Hein, là.
Voilà, on parle du 21e D'accord. siècle, mais ça veut bien dire qu'au fond, on est bien un peu une salope, puisqu'on peut éventuellement coucher avec un garçon dont on n'est pas bien sûr qu'on va rester avec lui très longtemps, parce qu'on ne fait pas toujours tout comme il faut, tout comme il est attendu, et notamment il est attendu des filles, quel que soit le milieu social, qu'elles soient amoureuses pour coucher. Et donc, si on n'est pas amoureuse, si ça ne se fait pas dans les conditions qui ont été soit édictées par les parents, par les pères, etc., alors ça veut dire que... On émet en fait un doute sur soi aussi, et dans l'insulte sexuelle et dans le fait de reprendre ces catégories hyper péjoratives, c'est aussi une façon de parler de soi et de parler de soi à un moment où justement on débute d'une certaine façon dans ces expériences-là.
Alors Isabelle Claire, j'ai bien retenu que pour vous, c'était pas forcément si difficile de trouver les mots, encore faut-il être entendu d'adultes d'une société qui, elle, ne trouve pas toujours les mots pour parler du sexe, du consentement, de la sexualité. C'est bien pour ça qu'une loi va être proposée le 21 mars sur le consentement à l'adolescence par Marlène Schiappa. Une loi qui mettrait l'âge de ce consentement à 15 ans. Bon, là aussi, c'est peut-être problématique, mais ce n'est pas le débat. Il y a eu récemment des affaires dans lesquelles étaient mêlés des enfants de 11 ans et pour lesquelles on parlait de consentement. Donc, c'est bien sujet d'actualité. Et puis, de manière un peu plus légère, mais on peut parler d'euphémisation, du consentement, du harcèlement aussi. Il y a eu cette semaine, une campagne contre le harcèlement dans les transports publics où les harceleurs étaient représentés comme des animaux sauvages, ours, requins, loup. Alors, je ne vais pas plaider la cause des animaux, mais tout de même, cette absence de vocabulaire précis, de cette terrible impossibilité à le dire, elle signifie quelque chose aussi du monde des adultes, Isabelle Claire.
Oui, elle signifie, en fait, la difficulté de parler de sexualité, elle se retrouve, elle n'est pas propre à l'adolescence. Et puis aussi la difficulté, puisque là, pour ce qui est de la campagne là dans le métro, la difficulté à représenter le coupable, parce que utiliser la métaphore animale, c'est très problématique à différents niveaux, parce que d'abord, donc, c'est des femmes qui sont attaquées par des animaux, donc les hommes qui attaquent sont en fait pas vraiment des hommes, ou alors au contraire, ils sont ce que l'homme a de plus profond en lui, d'ordre pulsionnel, parce qu'il y a quand même aussi ce fantasme de la sexualité masculine qui est prédatrice. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué. À mon avis, c'est aussi ça que la fameuse expression zone grise dit de façon problématique. C'est qu'au fond, la sexualité, c'est quand même aussi de la pulsion, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'il faudrait bien l'accepter à un moment donné, qu'il faudrait bien admettre que dans chaque homme, il y a un prédateur, que les femmes aiment bien les prédateurs, et que tout ça n'est pas si anormal que ça, et que quand c'est vraiment anormal, il suffit de dire non et ça s'arrête. Sauf qu'on sait que c'est... Donc il y a tout un mythe aussi du discours de la représentation, du consentement et de la violence. Qu'il y ait de la violence dans la sexualité, c'est une chose, mais qu'elle soit justifiée et qu'elle soit incarnée toujours selon ce rapport de pouvoir-là. Par contre, c'est ça qui est difficile à discuter. Et là, on voit bien que les adultes sont largement autant démunis que les adolescents, parce qu'arriver à faire cette campagne-là, c'est pas seulement avoir des difficultés à dire les choses ou à les représenter, c'est refuser de les représenter aussi. C'est quand même, ça va dans le sens de la continuité du monde, voilà.
Et vous, Faizagen, dont le travail en tant que romancière, c'est de trouver des mots pour raconter vos histoires. Comment vous l'interprétez, cette difficulté collective à désigner les choses? On peut ajouter, pour donner de l'eau à notre moulin, qui cette semaine a été retiré de la vente, en tout cas il n'a pas été réimprimé, un livre destiné aux préadolescentes qui racontait bien la puberté avec des mots qui ont été jugés maladroits et des conseils à bien se tenir. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui passait aussi pour des injonctions extrêmement sexuées, voire sexistes.
Oui, c'est quand même, j'ai suivi un petit peu ça, et il y avait ce sans vouloir déformer les propos de l'auteur de ce livre, sur la question des seins qui poussent, et c'est pas très sympa, et c'est chiant, et ça fait mal, mais... Alors, tu vois, il y avait un truc qui disait ça un peu, quoi, de tu vas attirer l'attention des garçons parce que tu vas devenir intéressante quand tu auras des seins, quoi. C'est, quand même, c'est... Voilà, je trouve que c'est assez lourd. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Là, vraiment, on a l'impression que c'est un chantier énorme et qu'on doit reprendre tout à zéro et tout réexpliquer, et c'est compliqué. Je crois que vraiment, dans le discours ambiant, mais pas seulement l'adresse des adolescents, dans le discours ambiant, on parle de cette campagne de la RATP, mais il y a d'autres choses. C'est que on déculpabilise les fautifs. On donne, en fait, il y a un excès de légèreté, je trouve, pour les hommes, et une surculpabilisation des femmes et des victimes, qui est, je trouve que l'écart est tellement important que vraiment il faut juste un petit peu rééquilibrer. Vous parlez d'asymétrie, mais c'est tellement ça, il faut rééquilibrer un petit peu les choses. Dans mon roman, j'ai parlé de légèreté. Et je disais que la légèreté, en fait, c'est vraiment le monopole des hommes. C'est-à-dire que les femmes, on n'a pas le droit d'être légères. Et je me rappelle d'une phrase qui m'avait marquée, et je le fais dire à mon personnage dans le roman, c'est quand DSK, en fait, est venue s'expliquer à la télévision en direct devant des millions de Français pour parler de l'affaire du Sofitel. Et il a dit, j'ai perdu ma légèreté, je l'ai perdue pour toujours. Ça m'avait tellement bouleversée, tellement je trouvais que c'était indécent et que c'était terrible. Et moi, je pense qu'il n'est question que de ça, c'est-à-dire que qui perd sa légèreté, en fait?
Et on a l'impression que les adolescentes dont vous décrivez les pratiques de discussion collective, elles s'accrochent un peu à cette légèreté aussi, Isabelle Claire.
Oui, parce qu'elles ont aussi des moments... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Je pense que c'est vraiment un des ressorts, en effet, de l'asymétrie, puis dans l'expérience, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on les ressent. Après, elles ont aussi des moments de légèreté. Et une chose, peut-être, quand vous disiez tout à l'heure que c'est frappant quand on voit un groupe d'ados ou qu'on les entend parler. En fait, on les prend malgré eux, parce qu'il y a des moments où, voilà, quand les gens sont entre eux, et particulièrement peut-être les ados qui parlent fort, qu'ils oublient en fait le reste, et tant mieux d'une certaine façon, pour le coup c'est une forme de légèreté à laquelle ils ont peut-être plus accès que nous une fois qu'on devient adulte. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui fait mal aux oreilles ou qui peut surprendre, parce qu'en fait on entend des choses qu'on ne devrait pas entendre, qui sont de leur monde et qui sont de qu'ils s'autorisent, pas tous, mais que certains s'autorisent. Et j'ai retrouvé ça aussi entre quand les filles sont entre elles et la façon le décalage aussi qu'il y a entre certaines discussions entre filles et la perception que certains garçons peuvent avoir de ce dont discutent les filles. Je me souviens de garçons qui me disaient « Oh, ben, je pense que les filles entre elles... Donc c'est toutes des salopes, mais d'un autre côté, elles parlent que de sentiments, elles parlent que... » Et je me disais « Mais si tu savais, enfin, quand les filles sont entre elles et qu'elles sont protégées dans l'entre-soi, elles peuvent aussi, voilà, soit être obscènes, justement avoir des formes de légèreté. Et je pense que c'est assez... C'est aussi selon les espaces et selon les moments. Et saisir, en fait, je pense que quand j'imagine ce gars, enfin je pense notamment là un garçon, je me le représente clairement, je me disais s'il entendait ses filles, il serait abasourdi, en fait. Enfin, je pense que pour lui, ça serait, comme m'avait dit un autre garçon, mais le monde s'inverse, parce qu'il avait découvert qu'en fait les filles pouvaient être désirantes, et que bon, à la fois c'était dans l'ordre des choses et contre l'ordre des choses. Et un peu comme quand on est adulte et qu'on entend, voilà, les éclats de rire qu'on entendait tout à l'heure dans le hall de la maison de la radio, dont on parlait avec Faïza, et qu'on est toujours un peu
parce qu'il y a souvent des interloqués.
Voilà, on est interloqués par cette espèce cette capacité à parler si fort, à rire, et c'est un petit peu, voilà, ça dérange aussi un peu. Enfin, en l'occurrence, ça nous dérangeait pas trop, mais s'il y a de l'obscénité, s'il y a des choses qui sont moins polissées aussi à certains égards, et ça nous fait des choses.
Et peut-être pour conclure, l'éducation, ce serait pour tous de mieux se connaître, quel que soit son groupe d'appartenance, filles, garçons, adultes ou adolescents. Merci infiniment à toutes les deux. Merci Isabelle Claire, merci Faïza Hagen. Dernier ouvrage paru, Millennium Blues. On passe à la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses. La leçon de choses de Bambi Sloan, au micro de Sophie Bobert, une éducation aux influences très diverses.
En fait, j'ai eu une éducation totalement schizophrénique. Mon père, un homme très excentrique, artiste, il travaillait dans la pub, tous ses copains étaient photographes ou illustrateurs, etc. etc. Et ma petite maman, totalement très française, mais qui a été très jeune orpheline, qui a été élevée par une grand-mère et une tante allemande en Allemagne pendant la guerre.
Donc, dans un climat beaucoup plus austère.
Très austère.
Mais à l'école, comment est-ce que ça se passait à l'école?
Alors, l'école. Le lycée français de New York, c'était très exactement un lycée comme à Paris. À part que c'était dans un hôtel particulier, absolument sublime à tomber, raide par terre, enfin, le marbre, le fer forgé, les moulures, les fresques. On portait un uniforme, blazer bleu marine, jupe lissée grise, soquette bleu marine ou blanche, chaussures noires ou bleu marine, manteau bleu marine, etc. etc. Ça a été, pour moi, un drame absolu, cet uniforme. Et je cherchais tous les moyens de faire exactement ce qu'il ne fallait pas faire, me différencier. Donc, la mode des mini-jupes, ma jupe plissée grise, je la coupais au ras des fesses. Ça m'a valu, bien évidemment, de rentrer immédiatement à la maison avec 2 heures de retenue. Donc, c'était la mode des midis. Donc, je mettais ma jupe grise à mi-mollet. J'ai tout fait pour essayer de détourner cet uniforme. Et mon premier réflexe, évidemment en rentrant, c'était de me déshabiller et d'enlever cet uniforme de malheur.
Vos parents étaient plutôt très ouverts d'esprit, peut-être un peu fantasques.
Complètement. Enfin, moi, j'ai des souvenirs incroyables. Moi, je me souviens, en rentrant de l'école... arriver chez moi et trouver mes parents dans la salle à manger, en train de jeter des paillettes sur de la peinture mouillée pour faire une salle à manger pailletée. Et c'est vrai que ma maison aussi, pour toutes mes copines de classe, c'était le refuge. On avait un jukebox dans le salon, les fêtes chez moi étaient réputées pour être les plus drôles.
C'est ça, la maison devait être très attractive pour vos camarades de classe.
Très.
Mais à quel moment, Bambi Sloan, avez-vous pris conscience et pris en considération un peu sérieusement votre désir de création, l'idée peut-être de faire de la mode ou d'être dans le design? Comment ça s'est passé tout ça?
Ça s'est passé de façon totalement accidentelle, parce qu'il y a une chose très importante que je ne vous ai pas dite. Parce qu'en fait, la discipline, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Et moi, j'étais au New York City School of Ballet, où je me faisais taper dessus par des vieilles russes, à coups de bâton. Un coup, on me donnait un coup de bâton dans le ventre pour que je rentre mon ventre, et en même temps, on donnait un coup de bâton dans les fesses pour que je rentre mes fesses. Alors, il faut rentrer et les fesses et le ventre. Et, là, c'est une discipline terrible auquel je ne suis pas du tout allergique. Parce que cette discipline-là vous donne en même la possibilité d'une grande fantaisie, de danser. Danser, ça c'était en fait ma vie, c'était ça, c'était de danser, et ça c'était aussi bien mon rêve de tutu que d'aller en boîte de nuit. J'adore danser, donc en fait le seul métier que j'ai jamais voulu faire, c'était d'être ballerine. J'ai jamais voulu travailler dans la mode, ni dans le design, ni dans le rien du tout. C'était ça. Mais bon, et après j'ai eu un accident, donc en fait non. Travailler dans la mode, le design et tout ça, je ne m'imaginais pas du tout. Mon père l'imaginait. Mon père me l'avait dit. Et moi, je ne m'en... Absolument, mais... Mais franchement, papa, tu dis n'importe quoi. Et en fait, mon père avait raison.
Merci à Somanina qui a réalisé cette émission, à Jean-Guilain Meige qui était à la prise de son et Marie Dalquet, notre attachée d'émission. N'oubliez pas que vous retrouvez Rue des Écoles dimanche prochain à 17h15 ou quand il vous plaira en podcast. Bonne soirée à toutes et à tous sur France Culture.